Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Thierry Lenz, la Fondation Napoléon, depuis un temps maintenant presque canonique, s'est attaché à publier année par année la correspondance de Napoléon Bonaparte. Et cette année, il y a un volume particulièrement important et volumineux, je dirais, 1812, qui est vraiment une année charnière importante. Et c'est surtout une année où Napoléon Bonaparte a été presque tout le temps absent de France.
Il est absent de France à partir du mois d'avril, donc effectivement, il n'a pas passé beaucoup de temps à Paris, ce qui ne l'empêche pas d'avoir beaucoup écrit, puisque ce volume, qui couvre donc exactement l'année 1812, présente 2550 lettres, c'est-à-dire c'est un bon cru de correspondance, puisque au total, sur les 14 volumes que nous allons publier, il y aura 42 000 lettres à peu près.
C'est énorme.
C'est énorme. C'est un homme qui n'avait pas de fax, qui n'avait pas d'email ni de SMS, donc il écrivait. Il faisait écrire, et heureusement, il faisait écrire, puisque son écriture autographe est assez indéchiffrable. Et donc, oui, en effet, encore, nous ne publions pas ce que nous appelons des ordres, les proclamations, etc., qui seraient encore quelques dizaines de milliers supplémentaires.
Si ma mémoire est bonne, pendant son absence, c'est principalement Cambacérès qui va gouverner la France en son nom. Il y aura des échanges de correspondants quasiment quotidiens, puisqu'il y a toute une organisation de postes. Quel est le contenu de cette littérature et puis quelles sont les autres catégories de lettres? Je sais qu'il a écrit une centaine de lettres à Marie-Louise.
Oui. On ne peut pas dire qu'il écrivait beaucoup à son épouse, puisque les lettres font généralement 4-5 lignes. Enfin, en plus, là, celles-ci sont autographes. Donc, Marie-Louise, bien que francophone parfaite, devait en plus déchiffrer l'écriture de son époux, ce qui devait lui prendre un peu de temps dans la journée, parce que c'est vraiment très, très mal calligraphié. Sur le reste, on a vraiment l'exemple frappant de la personnalité, une sorte de génie de Napoléon, c'est-à-dire que dans la même journée, il va passer des problèmes militaires, et Dieu sait s'ils sont importants en 1812, mais aux problèmes intérieurs, aux problèmes parfois même philosophiques, il répond à des auteurs qui lui ont envoyé des livres en les commentant, parfois des félicitations, parfois des disputes avec ses frères, ses ministres, ses conseillers d'État, etc. Donc c'est véritablement le concentré sur cette année-là de tout ce que sait faire Napoléon, c'est-à-dire à peu près tout, quoi, hein. Comme on disait à l'époque, il sait tout faire, il veut tout faire, il peut tout faire. Alors, vous me direz, sauf en 1812, gagner la campagne de Russie. Mais là aussi, la correspondance nous permet d'approcher le pourquoi de l'échec. Le pourquoi de l'échec, c'est notamment une organisation classique d'une armée qui n'est plus du tout classique. Napoléon commandait facilement seul une armée de 200 000 hommes parce qu'il avait un système de diffusion des ordres qui était très perfectionné.
Oui, mais là, c'est beaucoup plus lourd.
Là, c'est 650 000 hommes au total, plus les réserves. On peut compter qu'il y a à peu près 1 million d'hommes sous les armes à ce moment-là.
C'est l'armée des nations.
C'est l'armée des 20 nations, comme on dit. Le front est sur plusieurs centaines de kilomètres, c'est-à-dire que chaque ordre met plusieurs demi-journées, voire plusieurs journées pour arriver à son destinataire. Il y a en plus le mauvais choix d'un des commandants de ces groupes d'armées qui est Jérôme Bonaparte, un jeune homme sans doute charmant, joyeux, le roi joyeux, l'appelait-on en Westphalie, mais qui est quand même un peu jeune pour commander des armées pareilles, et puis surtout qui se dispute avec les vieux maréchaux, genre le maréchal Davout, qui sait quand même mieux l'art de la guerre que lui.
Oui, Davout le terrible.
Voilà. Alors, on subodore, on sent venir la catastrophe dans la lecture de la correspondance d'organisation de l'armée, parce qu'on sent bien que Napoléon, cette fois-ci, ne peut pas s'occuper de tout. Il lui aurait fallu déléguer davantage. Or, il y a encore des lettres qui entrent dans des détails absolument invraisemblables. L'approvisionnement en eau de vie, en fourrage, etc. Alors que normalement, toute une administration devait être là pour connaître tout ça.
Mais en fait, ça a été, sur le plan notamment de la subsistance, ça a été très léger, puisqu'on comptait se nourrir en partie sur le terrain. Or, très très vite, il s'est avéré que ce n'était pas faisable.
On a perdu, par exemple, pratiquement la moitié des chevaux avant d'arriver à Moscou. C'est-à-dire que la défaite était déjà consommée au moment de l'entrée à Moscou. L'hiver et la retraite n'ont fait qu'achever la grande armée qui était déjà bien malade.
Peut-on lire ce volume de 1812 sans connaître les autres ?
Celui-ci, oui.
Oui.
Alors d'abord, parce que chacun des volumes que nous publions est à la fois introduit, accompagné d'études,
oui.
Je crois qu'il y a une très belle introduction. Une introduction de Marie-Pierre Rey,
oui.
Qui est donc, je dirais, l'auteur sur 1812, hein, en cette année 2012, et qui a remis les choses dans son contexte. Toutes les lettres sont commentées. Et puis, en fait, on dirait que Napoléon nous a facilité le travail, puisque les premières lettres, celles de janvier, sont les lettres à la fois de préparation de la campagne de Russie, mais aussi de vœux, etc. Donc tout ce qu'on fait naturellement au mois de janvier. Et la dernière lettre, une lettre du 31 décembre 1812, c'est une lettre qui ordonne la préparation d'une nouvelle grande armée pour aborder l'année 1813, qui va être l'année de la campagne d'Allemagne. Donc on a, je dirais, une année d'un pouvoir napoléonien à la fois intérieur, évidemment très guerrier et très militaire hein, sur cette correspondance-là, mais avec d'assez jolis morceaux de tentatives d'organisation, on va dire, de vous voyez, le général en chef qui va aller s'occuper de réorganiser un régiment tout au bout de son armée, à plusieurs centaines de kilomètres de là.
Donc intéressons-nous à l'année 1812, qui est une année importante, une année clé, une année charnière.
Le commencement de la fin, comme disait Metternich.
Si l'on veut. Merci beaucoup Thierry Lenz.
Merci à vous.